Le message que vous allez écouter a été prêché à l'origine par John MacArthur de Grace Community Church, qui se trouve au sud de la Californie. John est pasteur, auteur, président du Master College and Seminary. Il est également le prédicateur principal de Une Grâce pour vous, un ministère d'enseignement biblique par les médias diffusé dans le monde entier. Ce message, traduit en français, vous est présenté par Une Grâce pour vous et ses partenaires. Après cet enseignement, nous vous communiquerons les informations qui vous permettront de vous connecter sur le site Une Grâce pour vous. Maintenant, écoutez l'enseignement de John MacArthur qui vous expliquera la vérité de Dieu au travers des versets bibliques.
Que doit être l'Église dans le monde? Et nous allons simplement donner un petit aperçu de ce que Dieu a voulu que l'Église de Jésus-Christ soit. Dans Actes, chapitre 2, et le verset 42, juste en lisant le texte pendant un moment. Actes 2, 42 dit ceci, en décrivant la vie de l'Église primitive. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Vous avez donc là une description de l'Église primitive, qui est vraiment fondamentale pour la compréhension du but de l'Église, surtout le verset 42, et l'action de l'Église du verset 43 jusqu'au verset 47. Maintenant, nous qui aimons Jésus-Christ sommes l'Église. Nous sommes le corps du Christ. Nous sommes rachetés. Nous sommes invisibles dans le sens où le monde ne peut pas nous voir. Et très souvent, nous ne sommes même pas en mesure de nous voir nous-mêmes. Quelquefois, vous savez, nous nous demandons si quelqu'un est véritablement ou non un croyant. Et pourtant, nous appartenons au corps collectif. Que nous soyons en vie ou dans la gloire, nous faisons toujours partie de l'unique corps du Christ. Nous sommes l'Église du Christ, parce que nous l'aimons. Nous sommes son Ecclésia, ceux qu'il a appelés, son assemblée des fils bien-aimés. Bref, l'Église, ce sont toutes les personnes que Dieu a appelées pour être ses enfants. De par notre position, nous sommes devenus un en étant unis par la foi en Jésus-Christ. Et c'est Jésus qui a déclaré, « Je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Et en le disant, il signifiait qu'il allait regrouper son corps. Il ne faisait pas allusion au bâtiment. Il parlait des gens. Nous sommes l'Église de Jésus-Christ, nous qui l'aimons et le connaissons. Nous sommes un, les uns avec les autres, parce que nous sommes nés dans la famille, par l'Esprit de Dieu, à travers la foi en Jésus-Christ. Nous sommes l'Église vivante du premier-né. Nous sommes l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, comme le dit l'auteur du livre aux Hébreux. Nous sommes des hommes justes grâce au Christ. Nous sommes un corps vivant, une communauté de ceux qui sont lavés dans le sang de Jésus-Christ. Telle est l'Église invisible. Le monde ne peut pas vraiment voir qui nous sommes. Ils ne peuvent pas nous cerner. Ils ne voient que l'Église visible, pas l'invisible. C'est-à-dire ceux qui sont des chrétiens authentiques et ceux qui ne le sont pas. Cependant, il y a également une Église visible, et je crois que le Seigneur a voulu qu'il y ait une Église visible. Comme Paul l'a mentionné au début de ce culte, non pas Paul l'apôtre, mais Paul le directeur de la jeunesse. Comme Paul l'a mentionné plus tôt, nous avons en essence un témoignage vis-à-vis du monde, en tant qu'Église visible. Lorsque nous nous rassemblons le jour du Seigneur, nous témoignons au monde que le Christ est effectivement ressuscité. Et l'Église visible a un témoignage à rendre au monde. Maintenant, certains disent que nous n'avons besoin d'aucun bâtiment et que nous devrions purement être spontanés, sans aucune organisation, ni bâtiment, ni structure. Je ne pense pas que cela soit la direction que Christ a voulu donner. Je pense que si vous revenez à Matthieu 18, par exemple, vous trouvez très clairement là que le Christ a prophétisé que l'Église serait une structure dotée d'une forme qui allait se réunir à un endroit précis. Dans Matthieu 18 en particulier, il y a plusieurs versets qui, je crois, indique cela. Le verset 15 de Matthieu 18. « Si ton frère a péché, va, et reprends-le, entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle, sur la déclaration de deux ou de trois témoins. Si un frère fait quelque chose de mal, va le voir et dis-le-lui. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle, sur la déclaration de deux ou de trois témoins. S'il refuse de les écouter, dites-le à l'Église. » Il doit faire référence à un groupe visible de personnes. L'Église n'a même pas encore commencé. Elle ne commencera pas avant la Pentecôte. Le Christ prédit que l'Église aura une forme visible, un groupe de personnes qui se réunissent dans un endroit spécial, dans l'objectif de communier, d'adorer, et ici, à des fins de discipline. Il y a donc dans le Nouveau Testament une indication claire que Dieu, dans son dessein, a voulu qu'il y ait une Église visible. Il serait impossible de porter ce problème à l'attention de l'Église invisible. Il faudrait qu'un corps constitué de trois personnes minimum, ou plus, se rassemble pour rencontrer cet individu. Christ a donc prédit que l'Église serait une assemblée visible de personnes, qui se rassemblent à un endroit donné, qu'elle aurait une structure, et qu'elle serait dotée d'une forme. Et ainsi, tandis que nous amorçons la lecture du livre des Actes, nous réalisons que l'Église invisible devient plus clairement visible. Et au départ, l'Église invisible et l'Église visible étaient identiques. Aujourd'hui, l'Église invisible et l'Église visible ne sont pas toujours identiques. Il y a des congrégations qui se réunissent et qui semblent constituer l'Église visible, mais qui ne sont pas du tout la véritable Église. Ce sont de fausses églises. Elles sont la prostituée. Elles constituent l'Église qui se prostitue. Mais à l'origine, l'Église invisible est devenue visible quand ils ont commencé à se réunir dans le livre des Actes, quand ils se sont mis à se rassembler d'une manière visible aux yeux du monde. Ils se réunissaient d'abord dans les maisons, et ensuite, comme les maisons allaient devenir étroites, elles allaient s'agrandir et se retrouver dans des annexes des maisons. Et très vite, au moins au IIIe siècle, l'Église s'est réunie dans son propre bâtiment, étant donné qu'elle avait grandi. Ce matin, j'aimerais que nous examinions deux aspects bibliques de l'Église. Je vous ai donné un aperçu plus tôt, parce que je voulais que vous ayez ces références pour votre étude à venir. Toutefois, j'aimerais que vous voyiez deux points généraux au sujet de l'Église. La fondation de l'Église et le ministère de l'Église. Je voudrais que vous voyiez son histoire, là où elle se trouvait. Et j'aimerais que vous voyiez son modèle, là où elle est supposée être aujourd'hui. Je voudrais également que vous sachiez que ce qu'elle était lorsqu'elle a commencé correspond en essence à ce qu'elle est supposée être aujourd'hui. Bien sûr, il y a de nouvelles façons de communiquer. Il existe de nouvelles méthodes. Nous sommes confrontés à de nouvelles problématiques au XXe siècle. Et je crois que le Seigneur s'attend à ce que nous soyons l'Église du XXe siècle. Mais d'avoir fondamentalement, du point de vue spirituel, exactement les mêmes principes qu'avait l'Église du premier siècle. Tout d'abord, j'aimerais que vous voyiez la création de l'Église, étant donné qu'on peut énormément apprendre de l'histoire. Comme nous lisons dans Actes, chapitre 2, ici, au verset 42 à 47. La première assemblée locale s'est réunie à Jérusalem. Et elle était essentiellement constituée de personnes modestes, des pêcheurs, et ainsi de suite. Il y avait beaucoup de pauvres. Certaines personnes avaient un peu plus de biens, mais le nombre considérable de pauvres justifiait le fait que tous ceux qui avaient beaucoup étaient disposés à donner à ceux qui n'avaient rien. Par conséquent, ils avaient tout en commun. Ils étaient persécutés. Ils avaient du mal à fonctionner au sein de leur société, étant donné qu'ils étaient ostracisés à cause de leur foi en Jésus-Christ. Il y avait énormément de pauvres parmi eux, et il leur incombait par conséquent de subvenir aux besoins de ceux d'entre eux qui étaient pauvres. C'est pour cela qu'ils avaient tout en commun. C'est un principe qui n'existe d'ailleurs dans aucune autre église dans tout le livre des Actes. Avoir les biens communs n'était pas une pratique courante de l'Église. Ce n'était pas la pratique courante de l'Église de tout partager, de manière communiste ou socialiste, pas du tout, mais uniquement à Jérusalem, à cause du nombre considérable de personnes pauvres et des circonstances inhabituelles de l'Église de Jérusalem. L'Église de Jérusalem a vu le jour dans une réunion de prière. Elle est née le jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit est venu et a rempli ceux qui attendaient dans la chambre haute, et l'Église a démarré à ce moment-là. Le corps était constitué. Le baptême du Saint-Esprit a eu lieu sur le champ, et la toute première congrégation locale a été formée ce même jour, le jour de la Pentecôte. C'était une Église passionnante, la première Église de Jérusalem, littéralement parlant. La chose intéressante à son sujet, c'est qu'ils servaient tous. Ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Ils exerçaient tous leurs dons, et l'unité de l'Esprit et l'amour du Christ étaient évidents au monde entier, et ils ont grandi assez rapidement. Ils ont eu 3000 ajouts le premier jour. Ils sont immédiatement devenus une grande congrégation. L'Église de Jérusalem est donc née en un jour, avec 3000 personnes. Vous dites, « Eh bien, on ne peut pas faire ça. On n'a pas le temps de lancer le programme. » C'est vrai, c'est vrai. Le ministère de l'Esprit de Dieu l'a fait. C'était la direction du Saint-Esprit. C'est le ministère du Saint-Esprit qui a produit tout cela d'une manière unique. Et ce qui est assez intéressant, comme si cela ne suffisait pas, que ces 3000 personnes fussent sauvées. Plusieurs d'entre elles étaient en visite et venaient d'autres endroits, et lorsqu'elles ont commencé à rentrer chez elles, plusieurs autres ont été ajoutées, ce qui fait que l'Église a continué de grandir et de grandir pour devenir une grande Église. Elle s'est ensuite déplacée vers diverses zones de la province et s'est répandue encore et encore à travers tout le territoire d'Israël. Comme je l'ai dit en vous présentant les diapositives dimanche soir, il y a de cela quelque temps, un endroit a été découvert à Capernaum, qu'on croit être la maison de Pierre, l'un des endroits où se réunissait l'Église primitive, étant donné qu'elle a été ouverte. Et il y a tout genre de preuves attestant qu'une Église s'y réunit. L'Église de Jérusalem s'est donc répandue et a établi des congrégations partout où ils se sont rendus, à travers le territoire d'Israël. À présent, j'aimerais que vous remarquiez au verset 42 les principaux ingrédients de leur vie d'Église, l'enseignement des apôtres, la communion, la fraction du pain, qui constitue la table du Seigneur dans la communion et la prière. Et c'était tout. C'est tout ce qu'il y avait. La seule chose que vous puissiez ajouter à cela était la prédication de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Dans les rues, il l'a prêché. Dans le temple, il l'a prêché. Dans les maisons, partout où il y avait un endroit pour ouvrir leur bouche. Cette Église primitive prêchait Jésus-Christ. Ils se retrouvaient pour la communion, la fraction du pain, l'enseignement des apôtres et la prière. Et ensuite, ils se dispersaient pour répandre la parole dans le monde. Ils disposaient de milliers de prédicateurs au sein de leur congrégation, et leur impact était fantastique. Au verset 47, il est dit « Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » Maintenant, avec ce genre de situation, ils avaient tous les ingrédients nécessaires pour avoir une Église fonctionnelle, bénie de Dieu et dirigée par le Saint-Esprit. Ils n'avaient besoin de rien d'autre. Aucune attraction humaine n'était impliquée. Il n'y avait pas de méthodologie humaine. Il n'y avait aucune attraction, aucun ballon, aucun concours. Les équipements qu'ils avaient étaient purement fournis par le Saint-Esprit lui-même. Le ministère était équilibré. Le ministère était complet. Le ministère ne manquait absolument de rien. Et la raison était que le Saint-Esprit le conduisait, premièrement. Et deuxièmement, les gens suivaient la direction de l'Esprit. Aujourd'hui, nous avons changé beaucoup de choses, et nous disposons de beaucoup plus de gadgets, et davantage de ballons, et de beaucoup plus de concours. Et il y a beaucoup plus de divertissements pour tenter d'attirer les gens à l'Église. Et dans une certaine mesure, c'est une sorte de compensation du fait que les chrétiens n'acceptent pas la responsabilité de suivre la direction du Saint-Esprit dans le ministère de leur vie. Tous les bobards mis en place, au sein de l'Église aujourd'hui, visent à attirer les gens pour substituer au fait que les gens ne font pas ce qui est juste. Cependant, ils avaient une vie sociale. Bien évidemment, il n'y avait pas que les affaires sans aucune camaraderie. Ils avaient ce qu'ils appelaient l'agapé, ou la fête de l'amour, qui était le souper-partage de l'Église primitive. Et au moment où l'Église de Corinthe est arrivée, ils avaient des problèmes, parce que les riches apportaient leur propre dîner, le manger, et ils laissaient les pauvres amener le leur pour le manger également. Et ils ont perdu le ministère du partage lors du souper-partage agapé. Paul a donc dû leur donner une petite instruction sur la question. Ils ont également transformé cela en orgie à Corinthe, ce qui fait que cela s'est détérioré. Quoi qu'il en soit, cependant, à ses débuts, l'Église se retrouvait pour la communion autour de la table, et ils mangeaient ensemble en partageant leur nourriture. Les gens donnaient librement les uns aux autres, ils se rendaient librement service les uns aux autres. Mais permettez-moi encore d'ajouter qu'il ne s'agissait pas d'une vie communautaire. L'Église n'a jamais été mise en marche pour promouvoir la vie ensemble. Nous avons ces groupes qui se lèvent partout, les enfants de Dieu et tous ces autres groupes, et ils ont manqué le coche en ce qui concerne le concept de la vie communautaire. Ce n'est pas un concept du Nouveau Testament. Et je pense qu'une grande illustration de ceci est dans le 5e chapitre du livre des Actes, au 4e verset. Vous vous souvenez d'Ananias et Saphira, qui ont menti au Seigneur. Au verset 4, il est dit ceci. Et bien sûr, c'était l'instruction que Pierre leur avait adressée. Ils avaient une propriété et avaient dit, « Si nous la vendons, nous donnerons tel montant au Seigneur. » Et puis ils l'ont vendue, et n'ont pas donné autant qu'ils avaient promis au Seigneur, ce qui fait qu'ils lui ont menti, et c'était leur péché. Le verset 4 cependant dit, « S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas ?» Autrement dit, il n'y a pas d'injonction ici comme quoi, parce qu'ils étaient croyants, ils étaient obligés de vendre leur propriété et de céder l'argent à la commune. Elle leur appartenait. Pierre dit, « N'étais-tu pas libre de garder ta propriété ?» Ou même, après l'avoir vendue, « Ne pouvais-tu pas faire de ton argent ce que tu voulais ?» Version Sommer. Lorsque vous avez reçu de l'argent, en échange de votre propriété, c'était votre argent. Autrement dit, il ne s'est jamais attendu à ce qu'ils donnent tout leur bien à l'Église pour devenir une espèce de société communiste. Mais le problème c'était, comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein ? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Le problème, ce n'est pas que tu aies vendu ta propriété et n'aies pas donné tout le prix à Dieu. Il ne t'a pas demandé de tout donner. Le problème, c'est que tu as dit que tu allais donner tel montant. Tu as donné moins. Tu as menti. Et parce que c'était l'Église primitive et que la discipline devait être stricte du fait de la nature cruciale de la fondation de l'Église, ils sont tous les deux tombés raides morts pour un tel mensonge contre le Saint-Esprit. N'êtes-vous pas content que celle-ci soit l'Église du XXe siècle ? Combien de fois avez-vous promis à Dieu ? Si seulement je pouvais recevoir ce chèque, je le donnerais au Seigneur. C'est le même péché, mes amis. C'est juste que Dieu est un peu plus miséricordieux maintenant. Je ne sais pas pour quelle raison, mais je le remercie d'être ainsi. Et comme je l'ai dit, dans les églises qui sont arrivées plus tard, nous ne voyons pas ce genre de partage avoir lieu, cette sorte de chose commune, bien que nous voyons le don de générosité en faveur de ceux qui sont dans le besoin. C'est donc une congrégation qui a démarré dans l'énergie du Saint-Esprit et a continué dans l'énergie du Saint-Esprit, et ils étaient préoccupés par la puissance de l'Esprit et par le service pour Jésus-Christ. Maintenant, la direction de cette Église primitive était composée des 12 apôtres. Ils constituaient le leadership parce que cela prenait du temps de développer des dirigeants. Bientôt, il y aurait des anciens des diacres. Ils ne pouvaient cependant pas être des novices. Cela ne pouvait pas être des nouveaux convertis. Et tout le monde était nouvellement converti au sein de l'Église primitive, ce qui fait que Dieu a confié cette Église de Jérusalem aux 12 apôtres pendant au moins 7 ans, peut-être 10 ans. Et ils exerçaient leur ministère. Ils agissaient comme des anciens et des diacres. En fait, ils faisaient tout. Les apôtres servaient la nourriture au sens propre du terme. Ils faisaient le travail de serveur lors des repas. Ils ont tout fait. Ils étaient les dirigeants de ces gens dans cette première église, cette congrégation d'origine. Et plus tard, après que toutes ces années soient passées, et qu'ils aient senti que certains des hommes étaient devenus des dirigeants spirituels et matures, ils se sont mis à choisir au sein de cette congrégation certains pour être des anciens et des diacres. Plus tard, certains de ces anciens étaient si fidèles, et certains diacres étaient tellement fidèles que Dieu les a promus à devenir des évangélistes et des pasteurs enseignants. Mais entre-temps, les apôtres exerçaient leur ministère en tant que dirigeants, ainsi que les prophètes qui constituaient la fondation de l'Église. Finalement, après au moins 7 ans, ils étaient prêts à envoyer un autre missionnaire et à lancer une autre église. Il leur a fallu 7 ans pour envoyer Barnabas à Antioche, afin d'établir l'église à Antioche. Ils avaient besoin de tout ce temps pour se préparer et trouver leur propre force et s'établir avant d'envoyer qui que ce soit en mission ailleurs. 7 ans. Maintenant, on aurait pu se dire lorsque cette communauté a commencé, à un si petit endroit, qu'il serait très pressé de porter cela à travers le monde. Et cependant, dans la sagesse du Saint-Esprit, ils sont restés au moins 7 ans avant de commencer à s'étendre, et puis davantage d'églises se sont établies, ici, là-bas, et partout où elles poussaient. L'apôtre Paul en a implanté quelques-unes, avec Silas et Barnabas, et d'autres. Et chaque église est devenue indépendante. Chaque église recevait le ministère du Saint-Esprit. Aucune dénomination ne les liait ensemble, sur le plan organisationnel. Pourquoi se déranger? Elles étaient déjà une dans l'esprit. Pourquoi devrait-elle avoir une organisation pour les lier? La seule raison pour laquelle on a besoin d'être lié par une organisation, c'est si on n'est pas ensemble. Mais si elles comprenaient qu'elles étaient une dans l'esprit, c'était ce dont elles avaient besoin, et cela réglait le problème. Et pourtant, elles avaient un lieu commun. Dans Romains 16:16, Paul dit « Toutes les églises de Christ vous saluent ». Il y avait une union, bien que chaque congrégation locale ait été indépendante. Il y avait cependant une union. Et elles étaient composées de tout genre de croyants, des juifs, des païens, toute classe de croyants, riches, pauvres, instruits, illettrés, tous les spectres de la société, et tous fonctionnaient ensemble, servant ensemble dans l'unité. Et la seule structure organisationnelle qu'elles avaient, la seule forme qu'elles avaient, était celle qui a été mise en place par le Saint-Esprit. C'est le fondement de base de l'Église, et c'est ainsi qu'elle a grandi à partir de Jérusalem. Mais l'Église a beaucoup changé, n'est-ce pas? Elle est devenue très complexe, très semblable à une entreprise. L'Église aujourd'hui est devenue, à plusieurs égards, une énorme organisation, constituée de dénominations, de commissions, de comités, d'un conseil mondial, d'un conseil national, avec des conseils d'administration, des programmes. On la fait fonctionner comme une entreprise, et non comme un organisme, une fabrique, et non une famille, une société, et non une communauté. L'Église de nos jours est également devenue un jeu à succès, avec des objectifs superficiels, le prix étant remporté par celui qui parvient à faire asseoir le plus de monde sur le plus grand nombre de bancs le dimanche. Bruce Larson a déclaré, « Pratiquement, sans aucune exception, les églises et pastorats prospères sont évalués sur la base de leurs records de dons et taux de croissance des membres. L'implication évidente, c'est que la croissance numérique et l'augmentation budgétaire constituent les principaux objectifs de l'église locale. » Fin de citation. C'est intéressant, vous savez, si vous vous contentez de vérifier la situation de l'église, à quel moment panique-t-il? Il ne panique pas énormément lorsque l'enseignement est insipide. Il ne s'affole pas trop lorsqu'il y a beaucoup de problèmes spirituels. Il panique vraiment lorsque la ligne commence à descendre sur la représentation graphique de l'assistance et des finances, l'argent. Les églises deviennent également, dans beaucoup de cas, des centres de divertissement où des performances sont offertes à des tas de personnes placides, dénuées de puissance et improductives. Et tous les dispositifs sont mis en place pour y emmener les gens, mais pas pour faire quoi que ce soit avec eux, une fois qu'ils y sont. Permettez-moi de vous livrer mon cœur, et celui des anciens et du leadership de cette Église, par la puissance de Dieu, et par votre ministère de prière, et par votre engagement à utiliser vos dons. Nous, en tant qu'anciens, allons faire ce que nous pouvons pour permettre au Saint-Esprit de nous montrer exactement ce que l'Église de la grâce est supposée être, et nous devons à cet effet commencer avec un modèle biblique, et après avoir mis ce modèle biblique en œuvre, selon que le Saint-Esprit l'aura voulu, nous ferons le pas suivant. À présent, j'aimerais que vous voyiez ce qu'est le ministère biblique de l'Église. Deuxième point majeur. Et j'aimerais que nous examinions trois lettres dans le Nouveau Testament. 1, 2 Timothée et Tite. Étant donné qu'en elles, nous trouvons le modèle en vue de l'organisation, la structure et la forme de l'Église primitive, et de n'importe quelle Église d'ailleurs. Timothée et Tite étaient deux évangélistes. Dans l'Église primitive, un évangéliste était quelqu'un qui implantait des églises. Il allait là où on n'avait encore jamais entendu parler du Christ. Il gagnait des gens à Christ et établissait une congrégation. Il restait souvent avec cette congrégation, pendant assez longtemps, au moins un an, peut-être même plus, 2 ou 3 ans, jusqu'à ce qu'il leur ait enseigné suffisamment de choses pour que certains d'entre eux mûrissent. Lorsque certains d'entre eux devenaient matures, il désignait des anciens dans cette ville pour prendre soin de cette église, enseigner et servir dans cette église. Ensuite, il se rendait dans un autre endroit où le Christ n'avait pas encore été prêché, pour gagner des gens à Christ et établir une autre congrégation. Rester là pendant quelques années, établir des anciens dans cette ville pour poursuivre l'œuvre. Ensuite, il allait à un autre endroit, et il continuait tout simplement ainsi. Telle était l'œuvre d'un évangéliste, Il implantait des églises. Timothée et Tite l'ont fait. Il leur arrivait aussi de faire occasionnellement le travail d'un pasteur enseignant, qui consistait à instruire les gens. Même un évangéliste était appelé à faire cela. Mais tandis que nous examinons ces trois lettres, 1 et 2 Timothée et Tite, nous voyons le modèle pour l'Église. Et pour vous le montrer, regardez 1 Timothée 3, 14. « Je t'écris ces choses, avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. » Paul écrit à Timothée, qui est un évangéliste qui implante des églises. Et voici ce qu'il dit. « La raison pour laquelle j'écris, c'est, afin que tu saches, si je tarde. Voilà la raison pour laquelle j'écris, que tu saches comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. En d'autres termes, j'écris pour que tu saches comment il faut se comporter au sein de l'Église. Je te donne la base de ce que l'Église doit être, les principes de la vie d'Église. Ils sont très clairs, ils ne sont pas flous, ils sont aussi lucides que possible. Maintenant, j'aimerais vous les présenter. Tout d'abord, quelle est la tâche fondamentale de l'Église? La tâche fondamentale de l'Église est d'enseigner une doctrine saine. C'est le travail de l'Église. Non pas de donner l'opinion d'un pasteur, non pas de vous donner mes opinions, non pas de vous réciter des illustrations passionnées, pas d'essayer de jouer sur vos émotions, non pas de se spécialiser en collecte de fonds, pas de courir ça et là faisant ci et ça, pas de fournir des programmes, des divertissements, des brèves petites pensées spirituelles, des dévotions hebdomadaires. Le ministère de l'Église est d'enseigner la saine doctrine, d'enseigner la saine doctrine. Tite 2.1. Regardez. C'est une autre instruction à celui qui implante une église. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. C'est en cela que consiste l'église. Cet évangéliste devait entrer à l'église avec une doctrine saine. C'est la base de tout. C'est ce que nous sommes appelés à faire. 1 Timothée 1.3. Lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, Paul dit à Timothée, à mon départ pour la Macédoine. Pourquoi? Afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres. Quoi? Doctrine. Enseigne uniquement la saine doctrine. Verset 6. Quelques-uns, s'étant détournés de ces choses, se sont égarés dans de vains discours. Vous prenez une église qui n'a pas un régime constant de saine doctrine, et ils se saisiront de chaque nouvel article brûlant qui va se pointer. Ils veulent être docteurs de la loi, et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Si aucune doctrine saine n'est enseignée, ceux qui veulent enseigner vont en attraper une qui n'est pas saine. Verset 10. Les impudiques, les infâmes, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures, et tout ce qui est contraire à la saine doctrine. Saint est la traduction du terme grec à partir duquel nous obtenons le mot hygiénique. Il signifie en bonne santé, ce qui édifie l'organisme. Il n'y a pas de place pour tout genre de doctrine qui déchire l'organisme. Tout sauf l'enseignement hygiénique, la vérité positive, l'emphase sur la parole de Dieu. Regardez à présent le chapitre 4, verset 1. Nous allons sauter certaines autres pensées. 1 Timothée 4, 1. Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, c'est-à-dire de nos jours, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Non pas la saine doctrine, mais quoi? Des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Maintenant, comment allez-vous protéger l'Église contre la doctrine du diable? Comment allez-vous protéger l'Église des esprits séducteurs? En tant que pasteur, en tant qu'un berger enseignant, mon travail consiste à protéger le troupeau. Comment est-ce que je m'y prends? Est-ce que je cours partout à la recherche des références de tout le monde? Non. La réponse se trouve clairement au verset 6 et 7. En exposant ces choses aux frères, chapitre 4. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Le seul moyen par lequel vous ne puissiez jamais instaurer une quelconque forme de protection contre la fausse doctrine consiste à nourrir les gens de la saine doctrine. Et verset 7. Repousse les contes profanes et absurdes. Exerce-toi la piété. Regardez au chapitre 4, verset 13. Et voici un modèle de prédication. Vous voulez savoir comment vous êtes supposé prêcher? Ceux d'entre vous qui aimeraient devenir prédicateur un jour, dans le futur de Dieu ou à présent, voici le modèle de prédication. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, c'est-à-dire la lecture de l'Écriture, à l'exhortation. Il s'agit de la proclamer, à l'enseignement, c'est-à-dire l'expliquer. Telle est l'essence de la prédication. Lisez-la, déclarez-la, expliquez-la. C'est tout ce en quoi cela consiste. C'est ce qu'on appelle la prédication explicative. Vous lisez le texte, vous expliquez le texte, et vous le prêchez, le déclarez, l'exhortez. Et le mot traduit par « lire » dans ce passage se réfère aux lectures publiques, en parlant du ministère de la prédication. Nous devons lire la parole. Nous devons expliquer la parole en détail et en profondeur. Nous devons exhorter les gens. Nous devons déclarer la vérité. Verset 15. Voici ce que le ministre est appelé à faire. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elles. L'attention du leadership de l'Église devrait porter sur la parole de Dieu, sur rien d'autre, mais sur la parole de Dieu. Non pas sur les programmes ou n'importe quelle autre activité superflue. Nous devrions être absorbés par la doctrine. Verset 16. Veille sur toi-même et sur quoi ? Ton enseignement. Persévère dans ces choses. Il n'y a aucun autre moyen. Car en agissant ainsi, tu te sauveras. C'est-à-dire, tu te sauveras des faux enseignants, toi-même, et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Les enseignants infestés de démons qui tentent de pénétrer l'Église ne peuvent être écartés que si l'Église est impliquée dans l'enseignement de la doctrine saine de manière répétée, constante, fidèle. S'il doit y avoir une protection pour l'Église de Jésus-Christ, et si elle doit être pure, alors il doit y avoir de la part des anciens qui la dirigent une fidélité à la parole de Dieu. Il ne s'agit pas de traîner dans les réunions, les conférences et les conseils et envoyer ses factures de carburant. Et c'est tellement facile de faire cela, parce que certaines choses sont bien, mais ne sont pas prioritaires. En tant que ministre de Jésus-Christ, tous les autres qui exercent un ministère en son nom, et moi-même, sommes responsables devant Dieu de la pureté de la parole. Nous devons l'enseigner dans sa pureté. Nous devons la prêcher dans sa pureté. Nous sommes responsables de vous protéger de la fausse doctrine. Nous sommes responsables devant Jésus-Christ de la qualité de notre travail, de notre fidélité à protéger et à nourrir le troupeau. C'est ce que Christ attend de chaque ministre. Et c'est effrayant de s'asseoir, de s'arrêter et de réaliser ce que Dieu attend de toi. C'est pour cette raison que Jacques dit « Réfléchissez-y à deux fois avant de désirer être un serviteur de Dieu. La responsabilité est grande. Si Dieu vous accorde l'appel, cependant, il vous fournit une opportunité pour le servir. Ainsi donc, cela signifie que nous devons continuellement consacrer toutes nos vies à la prédication et à l'enseignement. L'enseignement est la prédication explicative de la parole de Dieu. Malheureusement et tragiquement, les pasteurs que je rencontre me parlent quasiment chaque semaine, les cœurs attristés, parce que leurs églises s'attendent à ce qu'ils fassent absolument tout sous le soleil, sauf ce que Christ attend d'eux, à savoir enseigner la parole de Dieu. Par conséquent, leurs énergies sont dissipées dans tous ces devoirs autres que le devoir primordial. Cependant, dans 2 Timothée, par exemple, chapitre 1, le message est le même, verset 13. « Retiens le modèle des saines paroles. Retiens le modèle des saines paroles. » Vous savez ce que cette parole implique ? Cela implique que le modèle de l'Église, lorsqu'elle se réunit, sa forme devrait être l'enseignement des saines paroles. « Que tu as entendu de moi, dans la foi et l'amour qui sont en Jésus-Christ. » Second 21. Verset 14. « Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. » Et puis, au chapitre 2, il dit « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Voilà toute l'histoire. Nous voulons vous enseigner la saine doctrine pour que vous puissiez à votre tour enseigner la saine doctrine à quelqu'un d'autre. Tel est le magnifique dessein de l'Esprit de Dieu. Le ministère que les uns rendent aux autres au sein du corps du Christ fait simplement partie de cela. C'est ce que vous êtes appelés à faire, comme nous avons mentionné dans Éphésiens, le ministère des anciens ou le pasteur, ceux qui enseignent, visent à perfectionner les saints pour que les saints soient capables de faire l'œuvre du ministère. Et la clé, bien entendu, si vous devez le faire, est 2 Timothée 2,15. Il est dit « Efforce-toi de te présenter devant Dieu, comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. » Le premier mot de ce verset est la clé de n'importe quel ministère. Et je tiens à dire ce matin que c'est une grande joie dans mon cœur et un plaisir d'avoir une église, faire partie d'une église où les gens soupirent après la parole de Dieu et où vous désirez plus que toute autre chose que j'ai le temps d'étudier. Cela remplit mon cœur d'enthousiasme. Et très souvent, je suis sûr qu'il y a des moments où les gens souhaiteraient passer me voir et voudraient parler avec moi, peut-être pour quelque chose d'urgent. Et cependant, je suis enterré, occupé à étudier la parole de Dieu, souvent pendant des heures. De savoir qu'il y a de la compréhension et que vous savez que c'est ce que Dieu veut, réjouit mon cœur, et je vous remercie d'avoir ce genre de désir. Et c'est donc que le ministère efficace est un ministère de doctrine, et pour être performant, il faut étudier afin d'être approuvé, surtout si on se contente de l'apprendre au fur et à mesure. Ce n'est pas quelque chose de froid et d'ingrat. Plus bas, au verset 24 du même chapitre, il dit « Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. En d'autres termes, on ne fait pas cela dans un climat d'agressivité, mais plutôt dans l'amour, dans la douceur. » Ensuite, au chapitre 3 de 2 Timothée, au verset 14, il dit ceci. « Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres, qui peuvent te rendre sage, à salut par la foi en Jésus-Christ. Et combien de la parole de Dieu devons-nous prêcher ?» Verset 16. « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Pourquoi prêcher ?» Verset 17. « Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Écoutez, si nous allons édifier les saints et mûrir nos propres vies, nous devons le faire dans le ministère de la parole. C'est notre passion. » Et puis il déclare cette grande apogée à Timothée au chapitre 4. « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprends, censure, exhorte, avec toute douceur et en quoi, instruisant. » Nous voyons donc que le ministère de l'Église est simple. La doctrine saine, la saine doctrine, c'est le travail de l'Église. L'unique moyen que nous avons d'édifier les saints consiste à prêcher la saine doctrine. La seule manière par laquelle nous ne puissions jamais plaire au Seigneur et obéir à l'Esprit consiste à prêcher la saine doctrine. Se contenter de moins que cela constitue un péché. Les tout premiers évangélistes l'ont fait. Quel était donc le leadership de base? Et une fois de plus, nous voulons regarder dans Timothée et Tite. Quel est le leadership fondamental de l'Église? Il existe deux catégories de leaders dans l'Église. C'est toute l'organisation qu'ils avaient. Les anciens et les diacres. Maintenant, il y a d'abord les anciens. Il y avait une pluralité d'anciens. Aucun homme seul n'était responsable de l'Église. Je crois cela de tout mon cœur. Je crois qu'il faut qu'une unité collective d'hommes soit responsable de l'Église. Que je ne sois que l'un d'entre eux, il s'avère que j'ai le privilège, par la grâce de Dieu, c'est une grâce mystérieuse, d'être chargé de l'enseignement, d'être l'ancien qui enseigne dans un sens. Cependant, mes capacités sont assez limitées à ce seul domaine, et la vie de l'Église appartient au collectif des anciens, qui constitue ses dirigeants, sous la supervision de l'Esprit de Dieu. Je ne suis pas plus qu'un quelconque ancien dans cette Église. Je ne suis qu'un parmi eux, mon emphase particulière étant le ministère de l'enseignement. Un seul homme n'est pas responsable de tout faire, pas du tout. Le pasteur n'est pas le solutionneur de problèmes professionnels qui court ici et là avec son sac à outils religieux, attendant le prochain problème à réparer ou la prochaine roue à graisser. Il y a beaucoup plus que cela à ce sujet. Cependant, l'ancien est également appelé évêque dans le Nouveau Testament. Son titre est ancien, tandis qu'évêque est sa fonction. Évêque signifie superviseur. Il supervise le troupeau. Il s'agit d'un ministère spirituel, toujours dans le Nouveau Testament. L'ancien devait toujours être concerné par deux choses, la prière et le ministère de la parole. Ils étaient ordonnés dans chaque ville. Paul a dit à Tite, au chapitre 1, verset 5, « Tu établisses des anciens dans chaque ville. » Ils étaient issus de cette congrégation. Je crois que l'Église se porte mieux et est plus forte lorsque ses propres membres s'élèvent en position de leadership, et nous croyons cela ici. C'est pour cette raison que nous sommes heureux que chaque membre de notre personnel, chacun de ceux qui exercent un ministère ici, soit issu de la congrégation de cette Église. Nous croyons que cela est biblique, que Dieu voudrait que nous ordonnions des anciens ici, des personnes formées dans ce ministère, qui soient capables de faire avancer ce ministère. Et il s'agit donc d'un ministère spirituel. Ceux-ci ont été qualifiés par l'Esprit de Dieu. Ils ont été préparés et ordonnés pour servir au sein de l'Église locale. À présent, pour vous montrer ce qui est attendu d'un ancien, 1 Timothée 3. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, maintenant c'est la même idée. Évêque n'étant que sa fonction, superviseur, il est un ancien, c'est la même chose. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. À présent, voici les exigences pour un ancien. Et puis-je dire que je crois que nous sommes des anciens. Le personnel est constitué d'anciens. Certains parmi vous qui sont assis là sont des anciens. Vous ne faites pas partie du personnel. Vous remplissez toutes les conditions pour être un ancien, et nous allons prier pour que très bientôt, Dieu vous amène à ce niveau de véritable leadership avec nous, tandis que nous travaillons ensemble. Il n'y a pas de hiérarchie ici, aucune. Il s'agit d'une unité de ceux que Dieu a appelés à être anciens. Voici maintenant les exigences pour les anciens. Et si vous ressentez dans votre cœur, si vous sentez et croyez dans votre cœur que vous êtes un ancien, que vous remplissez ces exigences, que c'est ce que Dieu aimerait que vous fassiez pour diriger, je voudrais personnellement le savoir, et j'aimerais que vous m'en parliez. Le verset 2. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, c'est-à-dire qu'il doit avoir une bonne réputation au sein du corps croyant. Bien évidemment, il n'est pas parfait. Mari d'une seule femme, c'est-à-dire fidèle à sa seule et unique épouse, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Maintenant, être apte à enseigner ne signifie pas qu'il doit être un enseignant. Cela signifie tout simplement qu'il est capable de communiquer sa foi. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, et le terme adonné veut dire quelqu'un qui traîne longtemps à côté de son vin. Vous saisissez l'image. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Cela veut dire quelqu'un qui ne court pas après l'argent. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison, et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Très simple. Il ne faut pas qu'il soit nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors. Il faut avoir une bonne réputation parmi ceux de l'intérieur, et il faut avoir un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Voilà donc un modèle de base de qualification pour un ancien. Les hommes qui ont ces qualifications, si vous avez ces qualifications, si vous répondez à ces exigences et passez un certain temps dans la prière, et, bien sûr, vous savez que vous n'êtes pas parfait. Évidemment, nous le savons tous. Mais si vous pensez pouvoir répondre à ces exigences et que cela correspond au désir de votre cœur devant Dieu, alors Dieu a fait don de vous à cette congrégation, l'Église de la Grâce, pour diriger, conduire et enseigner. Que vous fassiez partie du conseil des anciens, ou non, n'est pas un problème. Le plus important ici est de savoir si vous êtes un ancien désigné par Dieu. Nous espérons et prions que tous ceux qui sont désignés par Dieu, comme anciens, deviennent bientôt des anciens dans le sens où nous travaillons avec eux. Ce qui ne signifie pas que nous le fassions dans la précipitation et la négligence, puisqu'il est dit dans 1 Timothée 5, 22, « N'impose les mains à personne avec précipitation ». Certains pensent que cela fait référence au fait d'ordonner les anciens sans réfléchir. D'autres pensent que c'est plutôt dans la manière de traiter avec ceux qui vivent dans le péché, et le genre de réprimande, et ainsi de suite. Cela peut servir dans les deux cas. Je ne suis pas certain de ce que cela signifie. Si cela s'applique aux anciens, c'est certainement une injonction de prudence. Dans 1 Timothée 5, 17, il est dit ceci, « Que les anciens qui dirigent bien. Cela implique que les anciens sont appelés à diriger. Dans l'Église locale, les anciens dirigent l'Église parce qu'ils sont directement sous Christ. Ils sont responsables devant Christ. Les anciens ne sont pas responsables devant la congrégation. Les anciens ne sont pas responsables devant un quelconque conseil d'administration. Les anciens ne sont même pas responsables devant leurs épouses pour faire tout ce que leurs épouses leur demandent. Les anciens sont responsables devant Christ, et ensuite, ils doivent diriger l'Église. Ainsi, que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Et ceci montre bien qu'on peut être ancien sans nécessairement être impliqué dans l'enseignement. Dans la conception du Saint-Esprit, il existe d'autres capacités. Les anciens prennent les décisions, ils ne sont pas soumis au peuple, ils ne sont soumis à aucun groupe, ils sont soumis à Jésus-Christ pour prendre chaque décision, après avoir prié et après que la parole de Dieu ait été étudiée soigneusement, afin qu'ils prennent des décisions avec la pensée du Christ dans l'énergie du Saint-Esprit qui affectera la congrégation tout entière d'une manière positive. Mes amis, c'est une grande vocation. Vous dites, cela est-il uniquement réservé aux hommes âgés? Non. Paul a dit à Timothée, que personne ne méprise quoi? Ta jeunesse. C'est une bonne chose que ce verset soit là. Les anciens doivent être continuellement en prière. Ils doivent être dans une étude continue de la parole de Dieu. Ils doivent rechercher et connaître la pensée du Christ. Et je crois que si une décision doit être prise parmi les anciens, elle devrait être de manière unanime, à moins que quelqu'un n'ait pas la pensée du Christ. Et je crois qu'elle devrait être prise avec le consentement unanime de ces hommes après la prière et l'étude de la parole, et le jeûne pourrait également être ajouté. Les anciens sont appelés à régler les problèmes qui se posent à l'Église. Ils doivent traiter avec les faux enseignants. Le saviez-vous? Dans Tite, chapitre 1, verset 9, ils doivent faire face aux problèmes des faux enseignants, attachés à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capables d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs, auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. Les anciens doivent garder les faux enseignants à distance. Les anciens doivent également discipliner les chrétiens, qui se retrouvent dans l'erreur sur le plan doctrinal. Dans 2 Timothée 2,18, il est question de Hyménée et Philète, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée, et qui renversent la foi de quelques-uns. C'est un problème réel et sérieux. Et dans 4,14, Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal, et Paul déclare, le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. En d'autres termes, ce sont quelques hérétiques au sein de l'Église. Il faut s'en occuper. Vous dites, comment est-ce qu'on s'en occupe? 1 Timothée 1,19, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue, et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre. Voici ce qu'il faut faire, que j'ai livré à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. C'est la discipline, les amis. Quelqu'un a besoin d'être discipliné. Lorsqu'il y a une erreur doctrinale, la personne concernée est exclue de la communion du corps, jusqu'à ce que Satan l'ait amené à l'endroit où il touche le fond, peut-être, et ensuite Dieu commence à le restaurer. Et puis nous devons également reprendre ceux qui pêchent en action, et pas seulement sur le plan doctrinal. 1 Timothée 5. Et nous aborderons un petit peu cela ce soir. Ceux qui pêchent. Quel est le mot qui suit? 1 Timothée 5:20. Ceux qui pêchent, quoi? Reprends-les. Quels sont les deux prochains mots? Devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Nous avons le droit de réprimander le péché publiquement. Le poste le plus élevé dans l'Église appartient donc aux anciens qui dirigent, sous la supervision du Christ, en tant qu'assistant berger, chargé de l'enseignement de la doctrine, l'administration, la discipline et protégeant le troupeau, priant pour le troupeau et étudiant la parole de Dieu. Il rend compte à Jésus-Christ pour ce ministère. C'est le début du ministère de l'Église primitive. Nous examinerons le reste la prochaine fois. Notre Père, nous te remercions ce matin pour ta vérité, pour ta sagesse. Nous te remercions de ce que nous savons, ce que l'Église doit être, enseigner la saine doctrine. Nous te remercions, Seigneur, de ce que c'est tellement clair. Père, nous te remercions pour les anciens que tu as accordés à l'Église de la grâce. Plusieurs des hommes qui servent comme anciens dans une capacité laïque. Merci pour les anciens, Seigneur, qui sont ici et que nous ne connaissons pas encore. Ceux que tu nous as envoyés pour exercer le ministère avec nous, qui ne sont pas des novices, mais qui sont dans toutes ces qualifications, irréprochables. avec une réputation de l'intérieur et de l'extérieur qui donne gloire au Christ. Père, nous te remercions de ce que certains d'entre eux sont assis ici même ce matin. Et Père, ils ne sont pas encore vraiment mis avec nous, peut-être parce que nous n'avons pas encore reconnu que ce sont des anciens que tu nous as donnés. Père, nous prions pour qu'ils désirent un poste à la mesure de leur vie, parce que c'est une bonne chose, et qu'ils vont se lever pour servir avec nous, afin de conduire cette congrégation. Père, je ne prendrai pas la responsabilité de diriger moi-même, ne serait-ce que pour un seul jour. Je suis pécheur, mes décisions ne sont pas toujours bonnes. Je ne veux pas le faire seul, et je te remercie pour le merveilleux désir du Saint-Esprit, qui est que nous fassions cela ensemble, avec une même pensée, à travers la prière et la parole. Père, fais venir le leadership qui se trouve ici devant nos yeux, afin que nous puissions voir. Nous te remercions pour ces autres qui ne sont pas des anciens, mais qui servent si fidèlement, qui exercent un ministère si fidèlement dans tant de capacités, aidant, enseignant, administrant, servant, rendant visite, passant des coups de fil à ceux qui sont malades, priant, donnant, partageant. Père, nous te demandons de faire de cette Église ce que tu veux qu'elle soit, au nom de Jésus. Amen.
Pour de plus amples renseignements, ainsi qu'un accès gratuit aux leçons de John, connectez-vous à Une Grâce pour vous sur le site gty.org. Le site vous offre la possibilité d'acheter la Bible d'étude de MacArthur, qui est la principale ressource financière du ministère de John. Le site vend toutes les traductions disponibles. Par contre, il n'est pas possible de la fournir gratuitement pour chaque pays où ce message est entendu. John MacArthur et Une Grâce pour vous sont dépositaires du copyright pour tous ces messages. Nos conditions en ce qui concerne la duplication des messages sont indiquées sur le site gty.org.